Salut, c'est Jean-Loup, et comme d'habitude sur Après la bière, on va parler de numérique, d'intelligence artificielle et de démocratie. Ce qui va suivre, c'est la bande audio de la troisième vidéo d'une série de 6 vidéos réalisées avec la chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Dans cette série, intitulée Moloch, quand la tech nous submerge, on explore de manière critique le côté obscur et les impacts négatifs de la technologie sur la société moderne, notamment ceux dus à la diffusion sauvage des intelligences artificielles génératives. Ce troisième épisode a pour titre « Pourquoi nous fonçons dans le mur ?» Bonne écoute!
Il se trouve que chaque homme est ce que la banque fait, et cependant, la banque le fait. La banque est plus que les hommes, je vous le dis, c'est le monstre. C'est les hommes qui l'ont créé, mais ils sont incapables de le diriger. John Steinbeck. Justement, dans l'épisode précédent, on a vu que l'espèce humaine était en passe de créer une technologie qu'elle était loin d'être en capacité de diriger.
Have you seen Don't Look Up? Humanity is doing exactly that right now, except... It's an asteroid that we are building ourselves.
Mais si les dangers sont aussi importants, pourquoi continue-t-on à développer l'intelligence artificielle à toute vitesse? L'exemple d'OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, est un exemple particulièrement intéressant. À l'origine, l'entreprise aurait été créée pour faire contrepoids à l'intelligence artificielle développée par Google. Elon Musk, son cofondateur, s'inquiète depuis longtemps des dangers inhérents au développement de l'intelligence artificielle.
OpenAI, which is the company that I... played a critical role in creating, unfortunately. My perception was that Larry was not taking AI safety seriously enough.
Mais assez rapidement, la réalité économique aurait rattrapé OpenAI.
We started as a non-profit. We learned early on that we were going to need far more capital than we were able to raise as a non-profit.
En fait, OpenAI avait absolument besoin de ressources supplémentaires pour développer son intelligence artificielle.
How do you train AI? Well, the answer is by processing a ridiculous amount of possibilities and outcomes, which requires a ludicrous amount of infrastructure. It was becoming abundantly clear that this whole non-profit benefit humanity thing just wasn't gonna work.
Alors, comment résoudre ce problème? Faire un appel aux dons sur Kickstarter? Pas suffisant.
Company insiders were starting to propose the idea of making OpenAI a for-profit endeavor. Being for-profit and advancing humanity weren't mutually exclusive. Right?
La réponse fut toute trouvée.
Capitalism, God's way of determining who is smart and who is poor.
La seule manière qu'a trouvé OpenAI pour poursuivre sa mission, c'est de se plier aux règles de notre système économique, le capitalisme. OpenAI s'est ouvert aux investisseurs, notamment en s'associant avec Microsoft. Microsoft, dont l'objectif n'est pas de rendre l'humanité meilleure, mais plus simplement de faire du profit. Même Musk, qui n'est quand même pas la réincarnation de Karl Marx, n'était pas ravi de l'apprendre.
It does seem weird that something can be a non-profit open source and somehow transform itself into a for-profit closed source.
Mais la vraie question à se poser est plutôt, est-ce qu'OpenAI avait véritablement le choix? Le marché est un lieu dans lequel des entreprises se battent pour des parts du gâteau économique afin de survivre, un peu comme dans un environnement biologique.
The free market is a jungle. It's beautiful and brutal.
C'est exactement ce qu'on a vu dans le premier épisode avec les créateurs de Google. Ils étaient contre la pub, mais ça, c'était avant qu'ils se confrontent à leur environnement économique. Et il est extrêmement difficile, peut-être même impossible dans une certaine mesure, de lutter contre le système dans lequel on est embarqué.
D'ailleurs, j'allais le dire, mais bon, vous critiquez vachement Google, vous êtes sur YouTube, est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe?
Et oui, et c'est le dilemme insoluble dans lequel beaucoup d'acteurs critiques du système dans lequel ils sont immergés et pour lequel ils sont formatés, sont. Et ça concerne les nombreux Jean-Michel Mastodon d'il y a 6 mois qui sont plus que jamais aujourd'hui sur Twitter, aux youtubeurs qui critiquent Google sur YouTube, en passant par certains individus hyper puissants et pourtant critiques de la marche du monde. Par exemple, dans les CEO de la tech dont certains développent de l'IA, avec Victor, on pense qu'il y en a qui sont vraiment convaincus des dangers de l'IA. Mais ils sont aussi convaincus que s'ils arrêtent, ça ne changera rien à la dynamique, sauf que leur entreprise risque d'y rester. Tant qu'à faire, ils préfèrent que leur entreprise fasse partie des survivantes.
Pourtant, c'est assez simple de limiter les risques. On n'a qu'à tous se mettre d'accord, et puis on ralentit tous ensemble.
Mais bien sûr, Arthur, on n'aurait qu'à faire ça. Un peu comme la Chine, les États-Unis, l'Europe et tous les autres pays auraient qu'à se mettre d'accord sur le climat et agir. Mais la coordination, c'est dur. Très, très dur. Cette course qu'on est en train de subir en ce moment sur les LLM et l'IA en général est le symptôme d'un paradoxe plus large. Le paradoxe, c'est qu'on est en train de créer un monde dont personne ne veut. On est en train de transformer notre environnement au sens chlorophyllien et social du terme en quelque chose que personne ne souhaite. Et c'est un problème vieux comme le monde, qui peut d'ailleurs être illustré par une vieille légende biblique. Bienvenue dans l'épisode 3 de la série Moloch, quand la tech nous submerge.
Une vieille légende biblique raconte que des tribus cananéennes avaient l'habitude de sacrifier à une divinité terrible ce qu'elles aimaient le plus, dans l'espoir que ces sacrifices les aideraient à remporter des guerres. Cette divinité a un nom, Moloch. Moloch est devenu une incarnation de la difficulté qu'il y a à résoudre des problèmes de coordination. Un état avait beau sacrifier des enfants à Moloch pour remporter des guerres, cela ne pouvait fonctionner que si ses rivaux refusaient de se soumettre à Moloch. Mais si l'ensemble des états comprenaient que pour remporter une guerre, il fallait sacrifier leurs enfants à Moloch, ce qui est une bonne décision si l'état souhaite maximiser ses chances de victoire, alors on se retrouvait dans une situation catastrophique pour tout le monde. L'intérêt rationnel d'une tribu, à savoir sacrifier des enfants pour gagner une guerre, ne débouche pas sur un comportement rationnel à l'échelle du groupe. La recherche académique n'a pas attendu nos vidéos pour s'intéresser aux problèmes de coordination. L'économiste américain Mancur Olson les a analysés dans son livre « La logique de l'action collective » paru en 1965. Pour lui, un problème d'action collective est une situation dans laquelle tous les individus auraient intérêt à coopérer, mais ne le font pas en raison d'intérêts conflictuels entre les individus qui découragent l'action commune. Comme le laisse penser la course à l'intelligence artificielle, ces problèmes sont très difficiles à résoudre. Certains ont même pensé qu'ils étaient insolubles. C'est le cas de Gareth Hardin et de son très célèbre essai « La tragédie des communs ».
Avant Hardin, beaucoup d'économistes embrassaient le concept de la main invisible, formulé par Adam Smith, qui affirme que l'intérêt individuel favorise généralement le bien commun. L'idée, c'est de supposer qu'il suffit de laisser les individus faire ce qui leur semble être le meilleur choix pour qu'il en émerge les meilleures directions à l'échelle d'une société. En fait, la tragédie des communs, c'est un peu le principe inverse. C'est quand des acteurs ont tous accès à une ressource commune limitée. Tous les acteurs ont alors un intérêt individuel à court terme à piocher dans la ressource autant que possible, quelles qu'en soient les conséquences collectives, notamment en termes de disparition de la ressource pour tout le monde.
And it can only hold this many animals. This is the carrying capacity. If animals are added beyond this, the grass can't regrow fast enough to support them all. A herdsman that puts an animal on the field will get the direct benefit that that animal provides for them, but they would only share a portion of the cost of the degraded field. There's almost no point in boycotting the use because someone else could just come in. None of the herdsmen own the field, and they can see that the field may not be around forever. They see no point in conservation and just try to use it before someone else does.
Et ce qui s'est passé avec l'effondrement de la pêcherie de morue de Terre-Neuve dans les années 90 donne du poids aux thèses de Hardin. Dans les années 70-80, tous les pêcheurs ont eu intérêt sur le court terme à pêcher tout ce qui pouvait vivre dans les fonds marins avec des technologies et des filets toujours plus performants. L'intérêt collectif aurait été que tout le monde commence à réduire la pêche pour préserver le stock qui donnait des signes de fragilité et ainsi pérenniser une activité qui faisait vivre des milliers de familles depuis des siècles. Mais avec une capacité à pêcher toujours plus de poissons grâce à des innovations technologiques toujours plus puissantes et une ressource en libre accès, ceux qui auraient volontairement réduit leur pêche l'auraient fait au profit d'autres pêcheurs moins scrupuleux, sans pour autant sauver la ressource. Donc pas de surprise, tous ceux qui pouvaient pêcher énormément de morue l'ont fait jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus aucun poisson.
As long as there is open access to those fish, there will be people with the incentive to go out and catch the fish, the more the better. Any open access resource like that is bound to be overused.
Pour Hardin, la protection des communs ne pouvait passer que par leur privatisation ou leur gestion par une instance politico-administrative. Mais dans les années 90, la chercheuse prix Nobel d'économie Elinor Ostrom souligna qu'une troisième voie existait. L'intérêt principal des travaux d'Ostrom fut de montrer que lorsque certaines conditions sont remplies, des communautés sont capables de gérer elles-mêmes durablement leurs ressources communes. La privatisation des communs ou une régulation venue d'en haut ne sont pas les seules solutions. Dans son célèbre essai Governing the Commons, Elinor Ostrom souligne que le problème, ça n'est pas les communs en soi, mais plutôt le côté non régulé. Un peu comme les buffets à volonté où le problème c'est pas le buffet, mais plutôt le côté à volonté de la chose.
« Dans son livre, elle étudie des exemples de ressources communes autogérées par des acteurs qui en régulent eux-mêmes l'accès. Elle précise bien que ça ne se fait pas par magie. Pour que la ressource commune soit durable, il faut absolument que son accès soit régulé. Elle remarque qu'une régulation réussie suit généralement 8 principes. Bon, on va pas tous se les faire, mais le premier par exemple, c'est de définir les limites précises du commun que le groupe souhaite préserver. Donc par exemple, si on veut protéger un pâturage, il faut déjà se mettre d'accord sur les frontières physiques du pâturage. Mais son essai ne décrit pas un monde des bisounours dans lequel la ressource commune est toujours préservée grâce à l'intelligence collective et à l'altruisme naturel de tous les acteurs. Ostrom prend également des exemples de ressources dont la gestion ne s'est pas très bien déroulée. Elle prend entre autres l'exemple de l'effondrement de la pêcherie de Terre-Neuve. Mais depuis tout à l'heure, on parle de ressources communes, et ça, ça a tendance à nous évoquer la forêt, les rivières, le pâturage, etc., etc. Bref, les éléments naturels. Sauf que les problèmes d'action collective, comme la tragédie des biens communs, peuvent s'appliquer à d'autres ressources communes. Et à votre avis, quelle mine d'or, découverte par les pionniers d'Internet, est en accès libre depuis 20 ans, sans que personne ne s'en soucie?
Ah, c'est bon, arrête d'utiliser un sorlat à ressources à laquelle personne n'a pensé.
Notre attention, comme l'océan, est également un commun. Et pour le moment, on est en pleine tragédie.
Caitlin slipped into a persistent vegetative state, confining her almost entirely to her bed and Facebook. With no hope that their daughter would ever recover, the Taggarts decided to seek legal permission to end Caitlin's life.
L'attention des individus est vue par les grosses entreprises de la tech comme une ressource à exploiter pour générer des profits.
Attends, je t'arrête tout de suite. Mon attention, c'est que la mienne. Elle n'est pas commune du tout. Ça n'a rien à voir, ton truc, en fait.
Eh bien, en fait, pas vraiment. On n'est pas des araignées vivant en totale autonomie les uns des autres. On est avant tout des animaux sociaux en perpétuelle interaction avec les autres. Ce qu'on fait de notre attention a des conséquences sur toute la société. J'irais même jusqu'à dire que la stabilité de notre civilisation dépend de ce sur quoi l'attention de chacun se porte. Épictète, le grand philosophe stoïque, disait « Tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention ».
Et cette ressource, l'attention humaine, donc, elle est littéralement en libre accès pour les grandes plateformes de la tech, qui utilisent des technologies de plus en plus sophistiquées pour l'extraire. On est donc face, là aussi, à un problème d'un bien commun, dont l'accès n'est pas du tout régulé, ni par l'État, ni par la privatisation, et encore moins par l'autorégulation. Et dans cette course à l'extraction d'attention humaine, TikTok semble être le chalutier numérique le plus équipé de la flotte. TikTok a trouvé les meilleurs filets pour racler le tréfonds de nos âmes. Du contenu personnalisé divertissant, ultra court, plein écran où la sensation de temps disparaît, d'autant plus que l'horloge est cachée, et où vous n'avez rien à faire à part swiper vu que, oh confort suprême, vous n'avez même pas à choisir la prochaine vidéo, l'algorithme le fait pour vous.
So you are voting with your thumbs, you know, by watching a video, you know, by swiping it, by liking it, by sharing it. You are basically exhibiting interest signals. And what it does mathematically is to take those signals, put it in a formula, and then matches it through pattern recognition.
Mais cette dynamique est difficile à enrayer, puisque l'on fait face, encore une fois, à un problème d'action collective. Si les autres plateformes ne se mettent pas à utiliser les mêmes techniques, elles perdront nécessairement des parts de marché. Évidemment qu'Insta, Snapchat et YouTube ont copié les filets numériques de TikTok. Pour ne pas se faire éliminer de la compétition à court terme, tout le monde utilise la meilleure technologie à disposition pour exploiter la ressource attention humaine au maximum, et ce, quelles qu'en soient les conséquences collective. On est là dans la continuité d'une course sur la meilleure manière d'hacker nos habitudes et nos comportements grâce à la puissance numérique. On pourrait dater le début de cette course à il y a 25 ans, quand Google s'est rendu compte de l'intérêt financier à prédire la probabilité que nous cliquions sur des liens sur la base de nos données personnelles. Si on résume, d'un côté, on a tous les acteurs de cette course qui suivent leur intérêt propre et continuent, ce faisant, de faire partie de la compétition économique. Grand bien leur fasse. Et de l'autre côté, on a une surexploitation de l'attention humaine de milliards d'utilisateurs qui est telle qu'on récupère en bout de cette course vers le bas une société avec un bon paquet d'externalités négatives. Capacité d'attention en chute libre, boom du taux d'anxiété, polarisation politique, etc., etc.
You know, maybe allowing giant digital media corporations to exploit the neurochemical drama of our children for profit? You know, maybe that was a bad call by us.
L'intérêt personnel court-termiste des big tech débouche sur une situation désastreuse pour l'ensemble de la société, qui par conséquent passe plus de temps à regarder ça
Couper un arbre entièrement avec un couteau de cantine, est-ce que c'est possible ?
Plutôt que de réfléchir à la résolution des problèmes pressants comme le changement climatique. Si on veut résoudre nos problèmes les plus urgents, on ne peut pas continuer à utiliser notre ressource attentionnelle n'importe comment. En fait, pour le poisson comme pour notre attention, on est face à Moloch, le diable des problèmes d'action collective.
Ouais, mais pour résoudre tous ces problèmes, on n'a qu'à utiliser les solutions d'Elinor Ostrom dont tu parles. Les 8 principes machin chouette.
Alors oui, c'est vrai, et c'est aussi ce que se disent pas mal de militants climatiques à la recherche d'espoir et de solutions. Mais en fait, c'est pas si facile, et Elinor le disait déjà dans son œuvre séminale. Parvenir à l'autogestion d'une ressource commune, c'est ardu. En 2010, elle enfonçait le clou et essayait d'analyser les facteurs qui pouvaient rendre un problème d'action collective plus ou moins difficile à résoudre. Il y a notamment un paramètre qui semble essentiel, c'est celui de la répétition. C'est la pédagogie évolutionnaire en quelque sorte. Quand tu prends un mur à chaque saison parce que chaque année c'est la même galère pour les pâturages, bon eh bien au bout d'un moment, tous les acteurs commencent à comprendre qu'ils ont intérêt à s'organiser. Pour comprendre le mécanisme, allez jouer au magnifique jeu de Nicky Case sur l'évolution de la confiance où on saisit l'importance de la répétition pour résoudre un problème d'action collective. On s'aperçoit en jouant que c'est lorsque les mêmes acteurs se retrouvent encore et encore dans le même dilemme que les stratégies coopératives peuvent émerger du processus évolutif. La répétition est un facteur extrêmement facilitant pour résoudre un problème d'action collective. Mais même si c'est extrêmement difficile, il semble qu'il puisse être dispensable.
Nous avons déjà réussi à vaincre Moloch lors d'un problème d'action collective sans aucune répétition. D'ailleurs, c'est le premier problème environnemental global auquel l'humanité a dû faire face. Et ce problème a commencé il y a quelques décennies, à l'époque où posséder un frigidaire, c'était comme rouler dans la dernière Tesla.
In your frigidaire cold pantry, there's a place for all your foods. Fresh and frozen, canned, bottled and wrapped, new bought and leftover.
Est-ce que vous vous rappelez de Thomas Midley?
Ah si, c'est pas l'ingénieur catastrophique là, celui qui a fait perdre 1 milliard de points de QI à l'humanité ou je sais pas quoi?
Bien joué Jean-Michel. Eh bien, on doit à Midley une autre invention destructrice, ce qui fait de lui l'un des organismes vivants ayant causé le plus de dégâts environnementaux de l'histoire. Dans les années 20, il développa une molécule, le fréon, qui fait partie d'une classe de gaz, les CFC. Le fréon, c'est une solution réfrigérante qui sera intégrée dans les frigos de millions de foyers. Jusqu'ici, tout va bien. Mais rappelons-nous, il faut rester humble avec la technologie. Parce qu'un demi-siècle plus tard, il y a eu ça.
Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole.
Scientists warned that humanity was on track to completely destroy the ozone layer by 2050. The biggest problem was chlorine from a man-made compound called chlorofluorocarbons, or CFCs.
CFCs are potent greenhouse gases. Per kilogram, they produce 10,000 times more warming than CO2.
Et oui, notre cher Midley avait, une fois n'est pas coutume, démocratisé l'utilisation d'une molécule qui allait détruire le monde. La destruction de la couche d'ozone posait un problème d'action collective à échelle planétaire. Mais une fois que le danger a été bien établi par la communauté scientifique, le problème s'est rapidement inscrit dans la conscience collective du public. Les médias en parlaient beaucoup et la pop culture s'est emparée du sujet. Résultat, la pression du public a poussé les leaders mondiaux à agir. Les dirigeants du monde entier se sont réunis pour trouver une solution, des efforts qui déboucheront sur le protocole de Montréal qui interdira l'utilisation des CFC. Mais comment un problème d'action collective a-t-il pu être résolu aussi rapidement? D'après la scientifique Suzanne Salomon, qui fait figure de lanceuse d'alerte sur le sujet, il y a 3 raisons. Premièrement, c'était personnel. L'un des arguments mis en avant, c'était que la destruction de la couche d'ozone allait provoquer des cancers de la peau chez à peu près tout le monde. Et tout le monde sait ce qu'est un cancer de la peau. C'est une maladie de la peau. C'est ça. Deuxièmement, c'était perceptible. Les médias montraient en continu la destruction de la couche d'ozone aux téléspectateurs. Quand on peut voir le danger, on peut mieux y réagir. Troisièmement, c'était pratique. C'est certainement le facteur principal de réussite. Abandonner les CFC, c'était relativement facile. Ça n'imposait aucun changement majeur de paradigme économique ou culturel. Mais aujourd'hui, les problèmes d'action collective auxquels nous faisons face sont bien différents. Moloch, le diable des problèmes d'action collective, est plus difficile à battre que jamais.
La course à l'IA ou le changement climatique ne sont que les symptômes d'un problème encore plus profond. Ce problème, c'est le paradigme à la base de notre fonctionnement global.
Mais quel est notre paradigme? Dans quelle direction nous emmène-t-il? Et à quel point est-ce difficile pour un système de changer son paradigme? On le verra dans la prochaine vidéo sur la chaîne Après la bière. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous le dire en commentaire et n'hésitez pas à la liker ou à la repartager, histoire qu'elle fasse un peu de bruit. Et pour ne pas louper la fin de la série, n'oubliez pas d'activer les cloches sur les deux chaînes.
Allez, ciao, ciao!
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon. One mistake.